Bienvenue sur la chaîne AAU. La discussion continue sur la fabrique du terrain lors du séminaire du projet ANR Sensibilia, sensibiliser l'enquête de terrain. Laurent Demance, chercheur en littérature contemporaine, dresse le portrait de l'écrivain en enquêteur. Il ne s'agit plus de représenter le réel, mais d'interroger les conditions de sa fabrique.
Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on enchaîne avec Laurent, rebond, transposition, et puis ensuite on a évidemment pas mal d'éléments de nos pistes transversales, de nos questions, mais d'abord, quelques mots. Laurent, merci Laurent d'être présent. Laurent Demance, qui est prof de littérature à l'UGA. Alors, je crois depuis 3 ans, on en parlait un petit peu avant. Je le précise parce que avec les temps pandémiques, etc., ça fait que le degré de conversation dans le monde intellectuel grenoblois n'a pas dû être facile. Et donc, voilà, on se disait qu'il y avait plein de rencontres aujourd'hui et de promesses aussi de ce côté-là. On reviendra sûrement sur un livre que vous avez parcouru au moins, enfin en tout cas avec une lecture en partage, qui est extraite d'Un nouvel âge de l'enquête, paru en 2017 chez José Corti. Peut-être dire qu'on a d'autres travaux relativement récents sur des auteurs français contemporains qui partagent certainement un certain nombre de caractéristiques. Gérard Massé, Pierre Bergougnou, Emmanuel Carrère. Et puis aussi un travail sur les fictions encyclopédiques, un peu dans le prolongement de Bouvard et Pécuchet. Et il ne s'agit pas de rentrer dans ces textes, évidemment, mais de dire que s'y joue probablement aussi bien de l'analyse littéraire que des questionnements qui sont aux confins, vraiment, des sciences sociales et de la littérature. Corpus littéraire, mais qui pointe aussi en bonne partie vers cette question des écritures du sensible. Voilà, je pense qu'on partage dans cette salle sûrement pas mal de matériaux de cette littérature. Voilà. Comme ça.
Allez. Bon. Merci beaucoup de l'invitation et merci beaucoup à François pour cette belle présentation qui donne déjà beaucoup à penser. Je voudrais essayer de ne pas être très long pour ouvrir le plus rapidement possible le temps de conversation parce que c'est ce qui nous importe. Je voudrais essayer d'abord de rappeler le lieu depuis lequel je parle en soulignant que je ne suis pas du tout un praticien de l'enquête, mais simplement un analyste de pratiques littéraires de l'enquête dans un contexte contemporain qui est un contexte de reconfiguration des champs. Donc je n'ai pas du tout l'expertise ni l'expérience d'ethnographe comme François, mais bien plutôt celui d'observateur et même souvent à distance. Je voudrais souligner que le livre que Laurent a évoqué, Un nouvel âge de l'enquête, s'inscrit en fait dans une attention renouvelée, partagée par de nombreuses chercheuses et de nombreux chercheurs autour des liens entre enquête et forme artistique. On peut citer, entre autres, mais il y aurait beaucoup d'autres chercheuses et chercheuses à citer, le livre d'Aline Caillé, L'art de l'enquête, ou celui de Daniel Méo, Enquête, qui s'intitule en sous-titre « Nouvelle forme de photographie documentaire ». En effet, tout le travail que j'ai mené et que ces chercheuses notamment ont mené est un travail qui s'inscrit dans une attention au renouvellement des formes documentaires dans mon cas, qui sont des formes documentaires littéraires, ce que l'on appelle aussi la non-fiction. Alors, le travail que j'ai mené est un travail qui se place sous l'égide de beaux articles de Dominique Khalifa, et notamment un article intitulé « Une culture de l'enquête ». Je ne vais pas m'apesantir dessus, c'est un historien vraiment important du 19e siècle et du rapport du 19e siècle aux littératures populaires. Ce qui m'a beaucoup intéressé, on pourra peut-être y revenir au moment des questions, c'est la manière dont il délaisse un peu l'outil de Carlo Ginzburg, paradigme indiciaire, pour proposer un autre outil, paradigme inquisitorial, qui m'a beaucoup sollicité, notamment pour les questions politiques de l'enquête, on y reviendra. Le point depuis lequel je voudrais te parler aujourd'hui, c'est sur les rapports entre littérature et ethnographie, qui sont des rapports que vous connaissez bien et qui sont documentés de longue date, et qu'on pourrait décrire de manière cursive comme le passage d'un conflit de territoire à des terrains d'entente. En quelque sorte, il s'agirait de passer du livre de Vincent Debanne, La Due au Voyage, ou le récent livre d'Éléonore de Vevey intitulé Terrain d'entente. Je m'explique en un mot. Ce que souligne Vincent Debanne dans La Due au Voyage, qui est consacré au rapport entre littérature et anthropologie dans le premier XXe siècle, c'est combien se sont multipliés les contacts entre ethnographie et littérature au terme d'un long mouvement d'institutionnalisation et d'autonomisation de l'anthropologie. Et ce qu'il souligne, c'est que souvent, le livre d'anthropologie est redoublé après coup d'un récit plus littéraire, plus autobiographique, qui ouvre les coulisses intimes et les coordonnées subjectives de l'enquêteur et qui dévoile en partie la question du corps de l'enquêteur, de ses implications et de ses interactions. Un des exemples les plus célèbres, c'est évidemment le Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss et de manière essentielle, toute la collection Terre humaine qui se livre à ce deuxième livre de l'enquête. Alors, ce que souligne Vincent Debanne, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait qu'il y ait un deuxième livre publié dans une collection olivière de la littérature ne souligne pas une confusion des champs, mais bien plutôt le fait que les champs disciplinaires sont encore fort distincts et qu'il faut une durée, un déplacement éditorial pour permettre de conjoindre ethnographie et littérature. J'emprunte ici des analyses de l'ethnographe Cécile Le Guy. Elle rappelle que Vincent Debanne montre bien la tension existante entre science et littérature dans l'ethnologie française de la première moitié du XXe siècle. Les deux doivent rester séparés et ce qui relève du récit, de l'enquête, ne pas figurer dans l'ouvrage scientifique mais dans un livre publié à part, a posteriori. Le livre scientifique lui-même, continue-t-elle, est de manière privilégiée une monographie rédigée avec objectivité, d'où la subjectivité de l'auteur, comme le récit des processus qui lui ont permis d'obtenir les données sur lesquelles reposent ses analyses, sont en grande partie occultées. Elle continue en soulignant que l'enquête elle-même, ses détours et ses égarements, comme ses trouvailles heureuses, relèvent bien souvent de ce que Sophie Carantini appelle les non-dits de l'anthropologie, et le texte scientifique expose des résultats après avoir présenté les méthodes utilisées pour les obtenir, mais on ne prend pas toujours la peine de raconter comment les choses se sont réellement passées, notamment les impasses, les erreurs, les oublis ou les choix involontaires auxquels tout chercheur est confronté au cours de ses enquêtes de terrain. Ça rejoint la discussion que nous avions ce midi. Alors, selon Éléonore de Vevey, qui était en co-direction avec Vincent Debanne et avec moi, cette partition entre les deux livres de l'ethnographe n'est plus de saison dans la seconde moitié du XXe siècle, ou moins de saison. Progressivement, le texte ethnographique expose ses non-dits, explicite sa démarche, analyse ses égarements et fait de la littérature un de ses outils de réflexivité. L'ethnographie connaît désormais un tropisme littéraire, mais on pourrait dire un tropisme artistique de manière très large, et l'intervention de François l'a bien montré, convoquant la chorégraphie, mais aussi le cinéma. Tandis que la littérature va être aimantée, c'est ce que je voudrais souligner, par le modèle ethnographique. Alors, les délimitations de champs n'ont pas disparu, les légitimations institutionnelles, les protocoles singuliers, les régimes d'autorité, mais les échanges se sont intensifiés. Et là encore, je rejoins ce que disait François, c'est-à-dire des porosités, des braconnages, des circulations, des négociations, mais pas de confusion. Alors, cet intérêt pour les modes d'écriture de l'ethnographie, vous le savez, s'inscrit dans un infléchissement textualiste de l'ethnographie, marqué par James Clifford dans Writing Culture en 1986, qui s'interroge sur des modalités polyphoniques de distribution de la parole, tandis que Clifford Geertz, dans Ici et là-bas, l'anthropologue comme auteur en 1988, est attentif aux modes textuels de constitution de l'autorité du savoir. Donc, tout un moment où on s'interroge sur les procédures d'écriture de l'ethnographie. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que malgré leur méfiance envers cette veine postmoderne de la discipline, et malgré un très vif désir de renouer avec le terrain d'enquête, avec le fieldwork, Alban Bensa et François Pouillon vont puiser chez les écrivains des ressources formelles, une sensibilité accrue au terrain et une attention vive au style de vie, et vont le faire dans un volume collectif intitulé « Terrain d'écrivain ». Dans ce volume, il propose à des anthropologues de relire des textes littéraires majeurs pour requalifier les procédures d'investigation concrètes de quelques écrivains, Montaigne, Flaubert, Kipling, comme autant de gestes ethnographiques. Le volume étudie par quelle procédure les écrivains constituent un terrain d'écriture au fil de leurs enquêtes, mais avec, et cela rejoint le propos de François sur un refus de l'idéalisme et un sens de la concrétude, mais avec une sensibilité matérielle et une attention à la concrétude des mondes arpentés plus forte, selon Alban Benza et François Pouillon, que chez les ethnographes eux-mêmes. L'introduction, intitulée « La leçon d'ethnographie des grands écrivains », convoque la littérature comme modèle d'exigence envers le concret. Et on pourrait ici élargir envers toutes les formes artistiques comme forme d'intensification de rapport au concret, hein, selon les propositions de François. En somme, ethnographes et écrivains vont puiser les uns et les autres, à la fin du XXe siècle, dans leurs pratiques respectives, une issue pour faire l'épreuve renouvelée du terrain. Chez les écrivains contemporains, ils vont se tourner vers les ethnographes parce qu'ils proposeraient des lignes méthodologiques à fort coefficient réflexif et politique, permettant d'être aux prises avec le monde social, après un moment dans les années 60 et 70, qui était un moment de formalisme, notamment le moment du nouveau roman. Les ethnographes, quant à eux, vont puiser chez les écrivains un contrepoids concret aux abstractions, notamment postmodernes, dénoncées par Alban Benza, et par un regard délesté de tout système conceptuel. Le dialogue entre sciences sociales et littérature s'était autrefois noué de manière privilégiée autour des procédures de réflexivité au premier XXe siècle et des stratégies scripturaires. Il se renoue aujourd'hui autour du paradigme du terrain, et vous avez entendu dans l'intervention de François à quel point cette notion-là était devenue absolument essentielle. Alors, je voudrais souligner, en prolongeant les remarques de François et un article, que s'élabore à la fin du XXe siècle des porosités. François, dans l'article qui nous avait été mis en partage, regrettait ce principe d'étanchéité, j'aime beaucoup cette formule, ce principe d'étanchéité, et il invitait, je le cite encore, à ouvrir des passages, à tenter de confronter des langages qui s'ignorent, des champs de la connaissance qui ne se fréquentent pas, tout en tâchant de rendre compte des espaces interstitiels. C'est ça qui me semble important, tout en tâchant de rendre compte des espaces interstitiels. Alors c'est cette porosité entre démarche ethnographique et investigation artistique sur le terrain que pointait récemment le critique d'art Al Foster, avec prudence d'ailleurs, dans un article resté célèbre qui s'intitule « Portrait de l'artiste en ethnographe ». Il écrivait ainsi à l'intérieur de cet article « Un nouveau désir d'ethnographie taraude désormais de nombreux artistes et critiques ». Alors, il évoque, ou on évoque à sa suite, un véritable tournant ethnographique des pratiques artistiques qui interroge les lieux de l'art en contestant les espaces institutionnels, musées, académies, marchés, médias, pour réinvestir d'autres terrains qui soient des terrains alternatifs. Il s'agit en quelque sorte de déplacer et de redéfinir les espaces artistiques à travers le prisme de l'ethnographie, en substituant à la galerie et au musée des géographies alternatives impliquées et solidaires. L'artiste emprunte ainsi aux sciences sociales leur force critique à travers des dispositifs qui sont des dispositifs dialogiques et polyphoniques, mais surtout pour saisir dans l'ethnographie une attention au contexte d'élaboration et de restitution des œuvres, une exigence de création collaborative. Alors, on parlait tout à l'heure de savoir situer, hein, c'est ce que vont chercher beaucoup d'artistes dans l'ethnographie. Alors, le critique souligne la force de tels décloisonnements disciplinaires, car ces usages de l'ethnographie permettent aux artistes de réinvestir des supports, avec une attention élargie aux faits culturels, et des méthodes, une réflexivité des gestes. Pourtant, si ce recours aux modèles ethnographiques permet de mener une critique des institutions et des discours, c'est aussi, note le critique Al Foster, une stratégie paradoxale, et qu'on peut discuter, pour parfois renforcer l'autorité de l'artiste en captant l'autorité, la légitimité d'une discipline valorisée. Alors, nul doute que les écrivains contemporains captent pour une part ce prestige du terrain, mais ils mobilisent librement un imaginaire disciplinaire, souvent détourné, bricolé, on en a parlé tout à l'heure, à travers des épistémologies sauvages, pour interroger la fabrique du savoir sans poser aux savants. J'ai beaucoup aimé la formule de François tout à l'heure, une connaissance sur un mode mineur, je pense que c'est ce que beaucoup d'écrivains vont mobiliser. Alors ces pratiques du terrain, ces pratiques et imaginaires du terrain, elles ont été analysées récemment par plusieurs chercheurs, notamment par Mathilde Roussigné, qui a fait une belle thèse sur les imaginaires du terrain, en co-direction avec Lionel Ruffel en littérature et Gisèle Sapiro à l'EHESS, qui montre comment le terrain est devenu, au-delà de l'ethnographie, un véritable momana qui va structurer et légitimer de nombreuses pratiques. Et qu'il y a, de ce point de vue, une véritable revendication de sortie hors de l'écritoire. Alors, pour les écrivains, sortie de ce modèle qui n'existe pas d'ailleurs, de la tour d'ivoire, comme il y a une sortie de l'atelier pour l'artiste peintre. Alors évidemment, cette sortie hors de l'écritoire reprend et réactualise certaines traditions plus anciennes qui plongent ses origines au moins dans les matrices journalistiques et les pratiques réalistes du XIXe siècle. Cette exigence de terrain s'accentue aujourd'hui dans ce que l'on peut appeler, et il en a été question ce matin avec ce qui nous a été proposé, dans un véritable tournant résidentiel de la littérature et des arts en général. C'est-à-dire que les institutions artistiques placent l'écrivain et l'écrivaine dans des dispositifs de rencontre des publics, dans des dispositifs d'étonnement face à des espaces sensibles, voire dans des dispositifs de remédiation sociale. Tout ce travail s'inscrit en partie aussi dans ce que le critique Dominique Viard a appelé les littératures de terrain. Alors, je voudrais lire très rapidement quelques mots de ce qu'il propose dans les définitions. Les littératures de terrain produisent cependant l'image d'un écrivain retrempé dans le monde, donc retrempé dans le monde après les moments de formalisme. Il souligne un renouveau de l'engagement politique, mais un renouveau de l'engagement politique qui se fait de manière horizontale et collective. On a parlé d'intelligence collective ce matin, et non pas sur le mode sartrien du surplomb. Et il va élaborer ce type d'engagement politique en mobilisant les réflexions de Nicolas Bourriaud sur l'esthétique relationnelle. Comment le travail politique de terrain se fait dans la mise en relation avec des publics. Alors, se développe donc aujourd'hui en littérature une exigence de terrain qui leste de concret les investigations littéraires en valorisant ses échappées hors du cabinet. L'écriture s'adosse à une expérience, s'approfondit la plupart du temps dans une immersion longue rendue possible notamment par ce travail de résidence et s'ouvre dès lors aux surprises d'une rencontre avec un lieu, avec un individu, pour mieux tenir à distance abstraction ou idéalisation. Mais comme la pratique du terrain est à la fois une initiation, un gage et un mythe, accordant à l'enquêteur une aura et une autorité épistémologique, les écrivains vont, quant à eux, revendiquer plutôt une démarche de savoir modeste, parfois frauduleuse, qui va congédier avec ironie ou discrétion toute héroïsation pour mieux revendiquer la figure de l'amateur, la figure de l'imposteur ou de l'individu ordinaire. Au lieu de l'explorateur, du coup, une pratique plutôt systématisée de dérive. À la place du scientifique patenté, des braconnages buissonniers. Peut-être que dans ces transformations en personnages qu'on avait vues ce matin, il y avait aussi ce jeu pour ne pas poser au savant, me semble-t-il. À défaut d'une mythologie de l'écrivain, souvent une posture de scribe ou de greffier, consignant avec discrétion les mots ordinaires du champ social. Alors, un des exemples qui est sans doute un des exemples les plus marquants et les plus stimulants de ce qui s'est joué autour de ces naissances de l'enquête, c'est la figure de Georges Perec, qui est certainement une des figures qui innerve le plus la littérature contemporaine. Il suffit d'ouvrir notamment le cahier de Lerne consacré à Georges Perec pour voir les innombrables hommages des écrivaines et des écrivains d'aujourd'hui à cette figure, non pas paternelle, mais bien plutôt fraternelle, qui propose des frayages ou qui propose des possibles dans les modes d'expérimentation du réel. Alors j'avais le désir de m'ancrer dans un texte pour essayer avec vous d'articuler ou de voir de manière plus concrète une physiologie de l'étonnement à travers un texte qui est un texte très célèbre que vous avez déjà certainement lu, mais toujours très agréable de relire Perec. Donc, un texte qui est le premier texte du volume posthume L'Infraordinaire et qui est un passage important au moment où Georges Perec participe à la revue Cause commune. Vous le savez, il est alors membre du comité de rédaction, Il est même officiellement un de ses cofondateurs et ça va être un lieu de discussion et de partage de lectures importantes, Lukács, Lefebvre sur la ville et Barthes. Alors, ce que de nombreuses chercheuses, et en particulier Léonore de Vevey, ont souligné, c'est que dans les minutes des discussions que nous avons conservées dans les archives de cette revue, la position de Pérec est une position tout à fait satellite ou en décalage par rapport aux autres intervenants de cette revue. C'est-à-dire alors que les autres contributeurs apportent souvent des sujets internationaux sur lesquels discuter et des prises de position politiques importantes, Georges Pérec se contente, note Éléonore de Vevey, de proposer des sujets d'étonnement qu'il met au service des autres en soulignant une capacité d'étonnement à cultiver et le plus souvent à partir de son expérience propre. Alors, je lis très rapidement les deux pages. Alors, les deux pages que j'ai conservées sont deux pages qui se situent juste après une dénonciation du sensationnalisme journalistique et du travail autour du fait divers, comme au travail autour des guerres ou de l'événementialité historique. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte ? Comment l'interroger ? Comment le décrire ? Interroger l'habituel, mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas. Il semble ne pas faire problème. Nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni questions ni réponses, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve, mais où est-elle notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? Comment parler de ces choses communes ? Comment les traquer plutôt ? Comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées ? Comment leur donner un sens, une langue, qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. Peut-être s'agit-il, si c'est un passage déjà postcolonial de la part de Georges Pérec, de fonder enfin notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres, non plus l'exotique mais l'endotique. Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Verne ou ses lecteurs en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé, cet étonnement, et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelés. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Décrivez votre rue. Décrivez-en une autre. Comparez. Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il sous votre papier peint ? Il m'importe peu que ces questions soient ici fragmentaires, à peine indicatives d'une méthode, tout au plus d'un projet. Il m'importe beaucoup qu'elles semblent triviales et futiles. C'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, essentiels que tant d'autres au travers desquels nous avons vainement tenté de capter notre vérité. Alors, je voudrais rappeler que ce texte a été publié une première fois le 5 février 1973. Vous y trouvez un plaidoyer pour une science de l'endotique qui entre, selon Éléonore de Vevey, en résonance avec certaines idées glanées, notamment chez Marcel Mauss, dont Georges Pérec avait été grand lecteur. Comme je l'indiquais, il s'ouvre sur une critique de l'événement, sur une dénonciation de la fabrique médiatique, la sensationnalisation. C'est donc un texte mi-sérieux, mi-joueur, anti-journalistique, qui va chercher à réintensifier l'étonnement contre le sensationnel. Vous voyez qu'un texte comme celui-là oscille entre le manifeste incitatif, décrivez, interrogez, et la modestie pensive. En somme, à la sensationnalisation de l'événement, Georges Pérec oppose une pratique volontaire de l'étonnement. Ce qui me semble important, c'est que l'étonnement n'est pas nécessairement premier. C'est plutôt une perte de l'étonnement qu'il souligne. Il s'agit dès lors, pour retrouver la formule de Georges Pérec, de retrouver l'étonnement. Ces retrouvailles avec l'étonnement, elles s'élaborent selon, je dirais, des anamnèses et des protocoles. Des anamnèses, parce que vous avez vu que Georges Perec, comme souvent dans son œuvre, va mobiliser la figure de Jules Verne. Il s'agit en somme de retrouver une capacité d'étonnement que l'on avait eue à la rencontre d'œuvres d'art, et en particulier d'œuvres d'art qui ont partie liée à l'enfance. Deuxième outil, celui de protocole. C'est-à-dire que ce que souligne Georges Perec, à travers ses incitations d'écriture, c'est que les pratiques d'inventaire, les pratiques de description, ne sont pas postérieures à l'étonnement, mais sont plutôt des matrices de fabrique de l'étonnement. C'est-à-dire que l'écriture ne vient pas comme étant un moment de restitution d'une expérience qui aurait déjà eu lieu, mais bien plutôt comme une manière d'accentuer les formes d'attention et de mettre en évidence tout ce qui relève d'une défamiliarisation possible ou d'une inévidence du réel. Alors, selon Éléonore de Vevey, trois traits rapprochent ce texte du texte de Marcel Mauss sur les techniques du corps que Georges Perec a lu. D'abord, une primauté accordée à la matérialité des pratiques. Ensuite, une promotion d'objets indignes en objets d'attention. Le béton, par exemple. Enfin, un suspens de l'interprétation. Ces amorces de protocole, Georges Perec souligne qu'elles ne sont pas formalisées en méthode. Il s'agit d'un travail de constat, sans hiérarchie et, dans la mesure du possible, sans perspective préconçue. Il y a, note Éléonore de Vevey, une véritable propédeutique minimale du regard. Elle souligne ainsi qu'il ne s'agit pas d'une anthropologie du sauvage, mais bien plutôt d'une anthropologie sauvage avec un caractère inframéthodique. Dans un article qui prolonge ce texte de l'infraordinaire, la chercheuse Marilyn Heck va souligner qu'il y a, de la part de Georges Perec, une poétique du regard, mais elle infléchit cette question du regard progressivement dans son article. Elle souligne d'abord, et peut-être que ceux qui sont familiers de Perec le savent ou le rencontraient, qu'il y a une très forte absence du corps dans les premières œuvres de Perec, une sorte d'occultation du corps, de degré zéro du corps, et que progressivement, l'œuvre de Perec est une œuvre qui va se réapproprier les pratiques du corps ou les techniques du corps. Il s'agit progressivement dans l'œuvre de Perec de mener un apprentissage du regard, de rechercher d'autres manières de voir, et de mettre fin à ce qu'il appelle dans l'œil ébloui notre cécité quotidienne. Cette obligation, ou cette injonction, cet impératif à se ressaisir d'une anesthésie initiale, Georges Perec va en multiplier les exemples. Dans l'infraordinaire, nous l'avons vu, mais aussi dans Espèces d'espace. Je vais prendre un exemple. Ne pas essayer trop vite de trouver une définition de la ville, pas aller vers une idéalité de la définition, c'est beaucoup trop gros, on a toutes les chances de se tromper. D'abord, faire l'inventaire de ce qu'on voit, recenser ce dont on est sûr. Ou encore, à propos de l'escalier et de la prise d'attention envers l'escalier dans nos modes de vie, le fait que cette attention suscite quelque chose qui peut ressembler à du dépaysement. Dépaysement, décentrement, vous voyez qu'il y a de la part de Perec une prise de conscience qui peut naître d'écarts parfois les plus modestes, notamment dans les réagencements de nos manières d'habiter. Alors, regarder et nommer, c'est donc cette méthode infraordinaire selon Marilyn Heck. Mais regarder et nommer se fait, selon Perec, selon une véritable esthétique de la simplicité. Il y a de la part de Perec quelque chose comme une véritable modestie dans les modes de notation. Il évoque par ailleurs une forme de nullité de l'écriture ou de bêtise même de son projet en se rêvant copiste dans ses listes qu'il fait. Dans ces listes, dans ces inventaires, il y a de la part de Perec quelque chose qui relève d'une résurgence de l'enfantin. Écrire l'infraordinaire implique pour Perec de se situer à un moment particulier, celui du commencement, celui de la naissance. Il en appelle à une parole qui est une parole bredouillante, à une parole balbutiante. Vous voyez comment je dirais, ce retouramment à une capacité d'étonnement est aussi un retouramment contre le langage, ce qui peut rejoindre en partie certaines propositions de François tout à l'heure. Ce projet de retour au corps, ou cette expérience de retour au corps qu'initie l'écriture de Pérec, elle commence sous le signe du regard, et on peut se souvenir de l'exergue qu'il choisit à l'Azimut d'emploi, « Regarde de tous tes yeux, regarde », qui était devenu le titre d'une exposition artistique tirée de Jules Verne, une fois encore. Mais progressivement, l'œuvre de Pérec va essayer d'intégrer, de manière beaucoup plus large, l'ensemble du corps. Interrogation sur les lunettes, sur les choses qui encombrent son bureau, sur les aliments ingurgités au cours d'une année, sur les lieux de son quotidien, qui vont marquer un mouvement vers le concret et vers l'ensemble du concret du corps. Dans un entretien avec Franck Venaille, Pérec définissait précisément l'objet du travail à cause commune comme, je le cite, c'est dans « Je suis né », que c'était republié, « le vécu, saisi au niveau du milieu dans lequel le corps se déplace, les gestes qu'il fait, toute la quotidienneté liée aux événements, à la nourriture, au voyage, à l'emploi du temps, à l'exploration de l'espace. » Donc voilà ce que je voulais très rapidement repréciser aujourd'hui, c'est-à-dire souligner comment la pratique de terrain chez beaucoup d'écrivains contemporains est une pratique de terrain qui se fonde sur des véritables dispositifs d'attention, des dispositifs d'étonnement, et que ces dispositifs d'attention et d'étonnement procèdent très souvent soit de protocoles, soit d'un véritable travail d'anamnèse allant puiser dans des rémanences artistiques, des possibles qui réintensifient le rapport au monde et le rapport au réel. Ce qui me semble particulièrement intéressant chez Pérec, c'est de souligner le déplacement du rapport au langage qui se joue dans ces pratiques d'étonnement, en soulignant que la pratique artistique de l'écriture ne vient pas dans un après-coup de l'expérience concrète du terrain, mais vient plutôt comme un outil heuristique de rencontre, de saisie, de déviation, de bifurcation ou de frottement au terrain. Et souligner aussi à quel point la question du langage est une question qui s'agit de prendre en soulignant ce que le terrain va faire au langage. François évoquait la nécessité d'apprendre la langue de l'autre. Il me semble que beaucoup des textes de non-fiction d'enquête vont mettre en évidence comment le terrain sensible va en quelque sorte parasiter, miner, susciter chez Pérec en l'occurrence balbutiement et bégaiement, mais chez d'autres écrivains va troubler le langage. En quelque sorte le langage, et c'est là peut-être là où je me différencie de François, ne serait pas un outil nécessairement dominateur, simplificateur, mais aussi un des lieux qui va se trouver affecté par la rencontre de l'étonnement et par la rencontre du sensible.
Merci,
Laurent. Je vous remercie.